Dominique Tigler, bonjour, bonsoir plutôt.
Bonsoir, ouais.
On est au camp des nos ancêtres nés du néolithique, mais dans la vallée de Chênebourg ce soir. Et ils ont commencé à poser leur camp à Confignon il y a déjà plusieurs jours. En fait, c'est le nouveau spectacle que vous avez écrit en résidence à Chênebourg et qui se jouait ce soir avec le camion théâtre et qui passe dans les communes genevoises et bien sûr à Carouge. Quelle est la jeunesse de ce spectacle qui remonte donc au néolithique, à nos ancêtres?
Alors c'est une idée de Jean Liermier, qui est le directeur du théâtre de Carouge, qui avait cette vieille obsession depuis longtemps de raconter l'histoire de l'humanité, des prémices un peu du capitalisme et de ce qu'on vit aujourd'hui, depuis une grotte. Voilà, ça c'était le challenge. Et à partir de là, c'était à moi de me débrouiller.
Merci. Je vais travailler, ouais. Le metteur en scène et écrivain.
Voilà. C'était à moi de me débrouiller pour raconter une histoire qui synthétise un peu le fruit des recherches. Et donc du coup, j'ai beaucoup lu de livres. Comme tout le monde, j'ai commencé par Hariri, Sapiens, et après je suis allé vers des choses un peu plus pointues, Homo Domesticus de James Scott, qui est un anthropologue anarchiste, c'est-à-dire c'est des gens qui s'intéressent à la genèse du pouvoir, et c'était finalement ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir comment les hiérarchies se sont construites, comment l'homme a dominé l'animal, comment l'homme a dominé la femme, comment il l'a justement réduit avec le même processus de domestication, comment ensuite l'homme a réduit l'homme en esclavage, et ainsi de suite, toutes ces choses qui nous amènent aux hiérarchies, aux disparités qu'on vit. Donc voilà, tout ça se trouve dans une vaste littérature scientifique, et puis il faut trier, choisir, et puis après faire du théâtre avec ça.
Voilà, justement, les références sont nombreuses. Quand on voit le spectacle, on comprend qu'il y a le mythe du bon sauvage, qu'on retrouve chez Rousseau d'ailleurs. Absolument. Il y a aussi la création de la langue, du théâtre, on le comprend aussi. Il y a le mythe de la caverne, de Platon. Il y a beaucoup de références multiples. Bien sûr, c'était un spectacle qui se destinait aux familles aussi. Il y avait de nombreux enfants. Et chacun interprète sans doute avec ses références, avec son bagage. Mais les références sont importantes. Et lesquelles avez-vous conservées pour justement aboutir à toute cette réflexion?
Alors, ce que vous dites est juste. L'idée, c'est de faire une pièce qui ait plusieurs niveaux de lecture, qui est déjà raconter une histoire, qui est le cœur de notre métier. Pas faire un cours scientifique, sinon il faut aller voir d'autres corps de métier. Mais moi, ce que je propose, c'est du théâtre, c'est-à-dire une histoire. Et sur la base de nombreuses lectures, justement, de trier la substantifique moelle qui peut donner le cœur d'un spectacle. Alors, si je vous cite un peu tous les livres que j'ai lus, ça ne va peut-être pas vous dire grand-chose, mais ils sont très nombreux, donc je vais faire une bibliographie sélective, comme ça, rapide. Il y a une dame qui s'appelle Marilène Patou-Matis, qui est une préhistorienne, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme préhistorique est aussi une femme. Et elle remet complètement en question toute la science préhistorique en disant une chose qui me paraît juste, c'est que la science de la préhistoire, c'est une science qui date du 19e siècle, qui est faite par des vieux barbus, des scientifiques de l'époque, qui calquent leurs rapports sociaux sur ce qu'ils vivent, en fait. Les rapports sociaux qu'ils imaginent être ceux de la préhistoire, ils prennent ceux qui les entourent. Donc ils ne peuvent pas imaginer autre chose qu'un homme dominant, qu'un homme violent, que des tribus guerrières, etc. Et elle dit non, il faut complètement s'abstraire, s'absoudre de toutes ces histoires et imaginer un monde qui n'est pas celui qu'on vit. À un moment, il y a eu une transformation qui fait qu'on est arrivé à ce stade-là. Mais sur la base justement de vestiges, notamment ces déesses mères, les fameuses Vénus de l'Espurge et tout ça, on peut imaginer et même déduire assez justement que la femme et l'homme étaient égales, voire que la femme était supérieure puisqu'elle donne la vie, puisqu'elle est la source de toute chose, et c'est Vénus paléolithique le prouve. Donc il y a d'autres choses encore qui tendent à aller dans cette direction, c'est le fait qu'on a trouvé des squelettes de chasseurs, et on a toujours pensé que c'était des chasseurs, des hommes, et puis grâce au progrès de l'ADN, on a découvert que c'était des femmes. Et il y a beaucoup de progrès scientifiques qui tendent à démontrer qu'en fait, la femme et l'homme faisaient exactement les mêmes métiers, ils avaient les mêmes tâches. Et ce qu'il y a de très intéressant, ce que j'ai gardé, c'est justement cette idée qu'à la base, au paléolithique, de notre époque chasseur-cueilleur ou chasseuse-cueilleuse, on était des gens beaucoup plus riches en termes de capacité. C'est-à-dire que les hommes et les femmes savaient cueillir, savaient chasser, savaient coudre, savaient raconter des histoires, savaient faire des cérémonies, étaient beaucoup plus complets. Et en plus, ils avaient une autre dimension, c'est qu'une fois ces activités faites, ils se reposaient beaucoup. Or, une fois qu'ils se sont sédentarisés, il y a tout ce que je raconte dans la pièce, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à thésauriser le grain, à vouloir faire toujours plus de rentabilité, et puis après à compter le grain, à trouver des systèmes de comptage, et puis après, forcément, les uns ont voulu plus que d'autres, et ainsi de suite.
Les divergences,
pareil avec l'élevage, avec le nombre de bêtes, etc. Il y a l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand l'homme a dominé l'animal, avant il fait partie du règne animal, l'homme, et du jour au lendemain, enfin ça se fait sur plusieurs millénaires, dizaines de millénaires, il décide de domestiquer l'animal, donc il le réduit en quelque sorte en esclavage, et il crée déjà une première strate hiérarchique. Voilà, après, je ne vais pas raconter le spectacle, mais tout ça aboutit à des épidémies. C'est ça qui était fascinant, c'est que les premières tentatives d'État à la préhistoire se sont cassées la figure à cause des guerres, à cause de la violence, à cause des épidémies, des zoonoses, à cause de la proximité avec l'animal. Donc le lien à faire avec aujourd'hui, il est assez net. Et ces États, ils se sont cassés la gueule, et puis il y a eu des nouvelles tentatives, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on aboutit à ce qu'on est aujourd'hui.
Alors oui, ben, le lien, il est truculent, et on ne va pas tout dévoiler du spectacle, que ceux qui veulent savoir plus viennent le voir. Pour revenir à ces déesses du néolithique, c'est universel, puisqu'on peut parler de Pachamama en Amérique du Sud. Absolument. Qui étaient ces déesses qui étaient à la fois créatrices, matrices, démiurges, proches de la nature, et qui respectaient tous les êtres de la nature. Et ça, c'est une part importante dans le spectacle.
Voilà, et les comparaisons justement avec d'autres types de civilisations, et même des tribus encore contemporaines, des ethnies un peu au Tibet, ou dans des coins reculés Amazonie. D'Amazonie, ou voire d'Afrique, où il y a encore des traces de matriarcat, tendent à prouver que d'autres systèmes sont possibles que la domination masculine. D'autres systèmes sont possibles, et c'est vrai que Rousseau, que vous avez cité, a eu une espèce d'intuition assez géniale, qui a été après vérifiée par Lévi-Strauss et d'autres anthropologues, c'est-à-dire que le mythe du bon sauvage, il ne repose pas juste sur un fantasme comme ça des Lumières, il est vraiment fondé, ou de la bonne sauvage, c'est-à-dire l'idée que la violence, la guerre, les hiérarchies ne sont pas consubstantielles à l'être humain, mais qu'elles sont une fabrication. Et tout l'enjeu du spectacle, c'est de voir comment ça se fabrique.
Et justement, pour avoir beaucoup lu des préhistoriens ou des spécialistes du néolithique, est-ce que vous avez compris à quel moment ce clivage, ce changement s'est opéré quand la violence, la prise de pouvoir, les divergences sont apparues?
Alors le grand point tournant, la grande révolution, si on peut appeler ça comme ça, ou le grand bond en arrière, parce que quelque part c'est plus une régression qu'une évolution, enfin peu importe, ça c'est des points de vue moraux, mais c'est vraiment à la sédentarisation que tout ça se produit. C'est-à-dire du moment qu'on arrête d'être chasseur-cueilleur, chasseuse-cueilleuse, on rentre dans un autre type de société qui est celui que je viens de décrire, avec abondance de biens matériels, et puis après aussi rareté du bien matériel, le fait qu'on soit dans une monoculture, et ben ça a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que quand ça marche c'est bien, il y en a beaucoup, puis que quand ça part sur l'échange aussi, il y a les premiers échanges avec d'autres clans, on a les premières traces de proto-capitalisme, tout ça nous amène justement à la rareté du produit, à la naissance de l'argent, de l'écriture aussi, parce qu'on a toujours pensé que l'écriture était quelque chose de noble, qui avait fait grandir, faire entrer l'être humain dans une autre phase. D'ailleurs, la séparation entre la préhistoire et l'histoire, c'est la naissance de l'écriture. Or, de ce que j'ai appris de mes lectures, c'est que l'écriture, c'est d'abord une basse affaire comptable. Donc ça, c'est un peu triste, mais c'est la réalité.
Poétique.
C'est moins poétique, mais voilà, il faut être pragmatique et raconter. En fait, si vous voulez, ce spectacle, c'est un peu une contre-genèse, quelque part. C'est de remettre un peu les pendules à l'heure et de dire, voilà ce qui s'est passé au moment de la sédentarisation. On a basculé dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pour donner des petites traces d'espoir, parce qu'on va quand même vers quelque chose d'assez négatif. La planète ne va pas bien. Donc il ne s'agit pas de revenir complètement en arrière, parce que ça paraît difficile, mais au moins de s'inspirer de ce qu'étaient nos ancêtres, et puis surtout de déconstruire. Ce qui a été construit peut être déconstruit.
L'harmonie qui avait l'air intrinsèque à ces ancêtres que nous avions, et dont nous avons oublié peut-être le patrimoine. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique Ziegler, le 19e siècle, et puis les siècles qui ont précédé, c'était quand même très ethnocentré déjà, et égocentré, mais tourné vers l'homme. Justement, la femme était devenue au fil des siècles la femme nourricière, surtout la femme des bourgeois et la femme des aristocrates. Évidemment, la femme du peuple devait travailler. Mais la femme était celle qui engendrait et qui devait honorer son mari, c'est tout. Et on comprend que, d'après ce que vous avez lu, étudié, exposé dans cette pièce, longtemps, chez nos ancêtres du néolithique, c'était paritaire.
chez ceux du paléolithique. Et à partir du néolithique, justement, mais ça se fait vraiment... là, dans la pièce, je synthétise, c'est très, très rapide et très brutal. Les choses se font de manière beaucoup plus fine, et c'est ça que j'essaie de raconter dans la pièce, c'est que c'est des transformations qui agissent sur les êtres humains sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis finalement, on arrive à cette situation que vous décrivez, et nous, symboliquement, dans la pièce, on l'a marqué avec le passage d'une statue de déesse mère à celle d'un lion guerrier. Et c'est ça, les vestiges nous apprennent ça, c'est qu'on passe de vestiges, de statues, de symboles féconds, dans le bon sens du terme, où la femme donne la vie, la femme est honorée de par cette fonction-là. Et puis tout d'un coup, quand l'homme devient le militaire, devient le flic, devient le chef, ben effectivement, il réduit la femme à une fonction nourricière, mais qui est plus sacrée, qui est reproductive, à des fins capitalistes, c'est-à-dire pour que les enfants aillent au champ, etc., qu'il y ait l'héritage, qu'il y ait les lignées, qu'il y ait les disparités qui s'installent, etc., etc.
Et est-ce qu'on peut parler de la distribution des comédiens ?
Oui, il faut parler de la distribution des comédiens. Alors, on a Marie Ruchat qui joue Anya, qui est donc le personnage féminin principal qui dans cette fable néolithique, décide de s'installer dans une vallée parce qu'ils en ont marre. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont passés du statut de chasseur-cueilleur à la sédentarisation. C'est parce qu'aussi, c'était quelque chose qui nous paraît utopique, il y avait aussi des problèmes, il y avait des dangers. Le fait qu'ils étaient qu'ils étaient assez bas dans l'échelle alimentaire et dans le règne animal faisait qu'ils étaient aussi des proies. Donc à un moment, ils ont voulu s'abriter. En s'abritant, en s'installant, Anya, dans notre fable, met le premier pas dans cet engrenage qu'on a décrit. Donc Anya est incarnée par Marie Ruchat, et ensuite cette même Marie Ruchat joue un chef d'un autre clan qui va installer les premiers échanges commerciaux avec le clan dont elle est issue, le chef Rafik. Ensuite on a David Casada qui joue justement un homme qui est soumis aux femmes, qui est une bonne personne, qui honore les femmes et les esprits, et puis qui petit à petit, justement, via la sédentarisation, va découvrir le pouvoir du mal, le pouvoir de la force, il y prend goût, il va devenir fou, et il va entraîner son clan au malheur. Ça, c'est David Casada. Ensuite, on a son pote Thorolf, qui est le disciple de Craor, qui est incarné par Jean-Alexandre Blanchet. Et Craor va être il va avoir plus une mutation politique, c'est-à-dire ce qui va l'intéresser, c'est le pouvoir et la richesse. Et Thorolf, lui, c'est la richesse pure, c'est les biens. Il veut thésauriser, il veut toujours plus. Et c'est en fait l'alliage de la fortune privée et de la force étatique. Quoi. Et c'est ça qui crée le capitalisme. C'est cette espèce de binôme, l'État qui sert la fortune privée et la fortune privée qui sert l'État, mais pas l'État dans le sens citoyen, l'État dans le sens des chefs. Donc ça, c'est incarné par Jean-Alexandre Blanchet qui fait un homme préhistorique truculent, comique, parce qu'il faut aussi déconner avec ça, parce que sinon c'est triste. Donc l'idée, c'était de raconter tout ça de manière ludique. Ensuite, on a Barbara Baker qui joue la chamane, qui est justement la conscience originelle du clan et qui va assister impuissante à l'évolution de ce clan. Et enfin, on a Charlotte Filou qui joue la copine d'Anya, Jogaila, qui joue aussi une femme préhistorique qui va survivre, parce que, je spoil un peu, Anya va mourir de la violence, elle va être la victime du premier féminicide néolithique, et Jogaila, elle, va continuer à essayer de défendre la position des femmes dans cette fable, et donc ça, c'est Charlotte Filou. Je crois qu'on a parlé des cinq.
Et puis, il y a un élément qui m'a beaucoup marqué durant le spectacle, c'est la musique.
Alors la musique, on l'a choisie avec Graham Broomfield, c'était assez compliqué dans la mesure où, comme c'est un spectacle à l'extérieur, on ne peut pas se permettre de faire de la spatialisation comme dans une salle, donc il fallait des morceaux et des ambiances qui soient tout de suite assez vite flashants et parlants pour les gens. Voilà, donc ça a été des choix assez compliqués, c'était parce qu'il faut attendre que le spectacle se fasse, qu'il soit suffisamment répété, et des choses qu'on avait conçues ou prévues en amont, elles ne fonctionnent plus suivant les énergies des comédiens. C'est tout un équilibre, le son, qui doit se marier en plus avec les rideaux qui se ferment. Comme on n'a pas de lumière, on a dû pallier à l'absence de lumière. On a des lumières très, très basiques qui éclairent, mais on ne peut pas faire des noirs pour passer d'une scène à l'autre. Donc,
les jeux d'ombre et lumière.
Voilà, donc tout ça, on a dû bâcher là-dessus et on a dû faire le système pour passer d'une scène à l'autre, soit d'une époque à l'autre, parce que c'est 12 000 ans résumé, avec un rideau qui se ferme. Et ce rideau doit être accompagné d'un son précis. Donc tout ça est une espèce d'architecture complexe qui met du temps à se mettre en place et puis qui aboutit à ce que vous avez vu, à un spectacle rythmé.
Rythmé avec justement ce rideau qui s'ouvre et se ferme, qui permet des transitions comme des scénettes pour le décor qui est à l'ouvrage.
Alors le décor, c'est une grande scénographe qui s'appelle Catherine Rankel. Pour la petite histoire, c'est la femme de Jean-Marc Stélé qui était un autre très grand scénographe. Et Catherine, c'est une femme du canton de Vaud, sauf erreur, mais qui a fait toute sa carrière en France, qui a fait des décors pour Lagerfeld, qui travaille pour Dior, qui fait des grosses bastringues, et puis qui fait aussi des décors de théâtre. Et je suis allé la voir sur la recommandation de Jean Liermier, le directeur du théâtre de Carouge, pour lui demander comment on pouvait résoudre finalement l'équation de raconter l'histoire de l'humanité depuis une grotte, dans un camion itinérant. Et elle a eu cette idée de faire la grotte avec un carton, voilà, de donner cet aspect éphémère aussi dont on parle dans la pièce. Et c'est un carton à plusieurs volumes, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans une grotte. Et ça, c'est vrai que c'est esthétiquement très très beau. C'est difficile à le décrire comme ça pour vos auditrices et auditeurs, mais il faut venir le voir, comme les gens flashent en priorité sur le décor. Et puisqu'on parle de l'esthétique, il faut aussi parler bien sûr des costumes, qui sont ceux de Trina Lobo, qui est une grande costumière. Et elle, c'est vraiment quelqu'un qui fait aussi de la recherche historique, en l'occurrence préhistorique, et elle regarde vraiment le type de tissu, le type d'habillement que les gens avaient à cette époque, et elle propose ce que vous avez vu, c'est-à-dire quelque chose de très très parlant esthétiquement et de très juste historiquement.
Et très convaincant visuellement. Pour revenir à vos spectacles en général et à celui-là aussi, il y a la dimension à la fois politique, historique, politique toujours très importante. On pense au spectacle sur Calvin, on pense bien sûr à Molière où il y avait la dimension politique, on pense à la déculottée des Helvètes face à César. La politique reste très importante dans votre œuvre.
Bah pour moi, tout théâtre est politique, c'est-à-dire ça c'est l'école Molière. Molière s'est attaqué au tabou de son siècle, il s'est attaqué à l'essence même du pouvoir, la religion, les marquis, le patriarcat, mais il l'a fait toujours de manière ludique, à travers des histoires, à travers des personnages truculents, et à mon niveau, c'est cette voie-là que j'essaie de suivre. Pour moi, le théâtre, c'est la catharsis, c'est l'école grecque, c'est le fait qu'on se réunisse tous ensemble, et là, plus que jamais, sur des places ou dans des salles, et puis qu'ensemble, on interroge l'évolution de l'humanité, ce qui nous oppresse et ce qui peut nous libérer. C'est ça qui m'intéresse, et tous les exemples que vous avez cités vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce soit via Calvin, via l'exemple de Molière, via la déculottée des Helvètes face à Jules César. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la politique impériale de Jules César, comment il a fait pour battre nos ancêtres, il a divisé pour régner, il a fait jouer les tribus celtes les unes contre les autres, donc c'est des méthodes que les Américains font, que les Russes font, que toute puissance impériale fait, donc à travers l'histoire, on raconte toujours des choses sur aujourd'hui, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne fais pas un théâtre de musée, c'est pas juste de l'historiographie comme ça pour le plaisir, c'est vraiment, encore une fois, dans cette même logique de comprendre ce qui nous construit pour mieux le déconstruire.
Alors justement, Dominique, je rebondis sur ce que vous dites. Votre spectacle montre bien qu'il y a des résonances avec notre société, notre ère contemporaine. On pense au féminicide, justement, ou au réchauffement climatique.
Voilà, tout ça est dans la pièce. Comme je vous ai dit, cette femme qui est incarnée par Marie Ruchat, Anya, à un moment, on va s'apercevoir que la sédentarisation ne mène nulle part, que le type de société à strates hiérarchiques qui se met en place est contre nature. Elle va décider de repartir justement dans la nature, de rejoindre la chamane qui est partie dans les vallées voisines. Et son ami, son petit copain, Kraor, va la tuer. C'est donc le premier féminicide. Et c'est un acte de violence qui est fortement probable, puisque ça arrive encore aujourd'hui. Il faut bien qu'il y ait eu une origine quelque part. Quant au réchauffement climatique, il est la logique conséquence de tout ce qu'on décrit. Voilà, pas seulement théâtralement, mais aussi politiquement, historiquement, climatiquement. Aujourd'hui, on est arrivé à cet état de fait où la planète est en train de crever parce qu'à un moment, des êtres humains se sont installés dans des vallées, ont essayé de domestiquer l'animal, ont essayé de faire des villes plutôt que des villages, de se développer de cette manière-là, et cela nous conduit à la catastrophe que nous vivons.
Et d'oublier l'harmonie primordiale que vous mentionnez pour le profit pur.
Exactement, vous avez tout décrit.
Voilà, donc j'ai bien compris le capitalisme. Mis à part ça, vous mentionnez que votre spectacle, c'est dans un camion-théâtre avec l'appui du théâtre de Carouge, de Jean Lhermier. Donc vous partez dans les communes, vous partez aussi à Carouge dans plusieurs endroits. Pour l'instant, l'accueil est vraiment, l'accueil du public est au rendez-vous à chaque fois. J'ai vu que ce soir, il y avait beaucoup de monde. Il y a aussi des spectateurs très très jeunes qui voulaient intervenir presque sur scène.
Voilà, moi j'avais jamais fait de théâtre itinérant comme ça, de théâtre en plein air, donc c'est aussi une grande première pour moi.
Et un baptême réussi ?
C'est un baptême, c'est vraiment une très très belle surprise parce que le public est très attentif, il rentre dans l'histoire et puis effectivement il réagit d'une manière qui ne serait pas celle dont il réagit normalement dans une salle, parce que dans une salle il y a un côté un peu plus cérémonial, parce que là ça se lâche, il y a effectivement des enfants qui sont là, qui jouent, qui réagissent, c'est vraiment le théâtre à l'ancienne, c'est le théâtre de très tôt. À un moment la chamane disait ce soir, mais à Kraor, mais où est Anya ? Et il y a un petit gosse qui a dit il l'a tué. On était dans le théâtre de Guignol, moi ça me plaît, j'adore quand il y a une participation et les acteurs sont tout à fait rodés à ce genre de choses. Et en plus, quand j'ai su que c'était un spectacle itinérant, je suis parti du principe que le public était le clan. C'est-à-dire qu'on les invective beaucoup, on les intègre dans l'histoire, on s'adresse à eux comme membres du clan. Ce qu'ils sont, on est ce grand clan humain qui descend de cette sédentarisation.
Un peu dans la belle tradition de la Commedia dell'arte, ou dans l'agora grecque, où les gens participaient. Pour vous faire participer sur un sujet très actuel avant de vous quitter et vous laisser vous reposer avant les autres représentations, Molière a sans doute déboulonné quelques statues par rapport à ce qui se passe actuellement. Que pensez-vous du wokisme par rapport à l'art, par rapport à la création, par rapport aux écrivains, aux artistes dont vous faites partie ?
Je crois que le wokisme, c'est une espèce de terme général qui veut absolument rien dire, qui a été inventé par les classes dominantes. Il y a des réveils de groupes minorisés qui prennent certaines formes. Des fois, c'est adroit, des fois, c'est maladroit. Mais en tout cas, de comme ça condamner brutalement en disant c'est du wokisme et de ne pas remettre en question justement ces privilèges de mâles hétéronormés blancs, je pense que c'est une grande erreur. Et on voit avec le temps, de toute façon, que les groupes dits minorisés font entendre leurs paroles. Je pense par exemple à l'Oscar qui avait été remis à Marlon Brando il y a 50 ans. C'était une femme amérindienne qui était allée le chercher. Mmh. Elle s'était fait huer. John Wayne avait voulu lui casser la gueule. Et 50 ans après, l'Académie des Oscars s'excuse et lui remet l'Oscar à titre officiel. Donc les choses évoluent et je ne crois pas que les artistes sont en danger avec un soi-disant wokisme, bien au contraire. Le travail qu'on fait, c'est un travail de prise de conscience, de s'intéresser à toutes les problématiques d'oppression, de répression et de faire ça justement pour tout le monde. C'est ça qui est bien dans le théâtre. Et vous parlez du public, ce qui est génial, c'est que le public est là et on ne se demande pas d'où il vient, qui il est, quelle est son obédience politique, son origine ethnique. C'est ensemble, on réfléchit et on s'amuse, parce que c'est d'abord ludique. Et c'est ça la clé pour moi d'un militantisme joyeux, si vous voulez.
On s'amuse et on réfléchit, grâce à vous, Dominique Tigler.
Merci.
Le spectacle a échappé à la pluie, mais nous, on est en train de l'apprendre. Voilà. Merci, hein, de nous avoir consacré du temps.
Merci à vous de votre intérêt. Bonne soirée.
Merci, pareil.